J'ai sélectionné cette émission de France Culture parce qu'elle est particulièrement significative. Ici, il s'agit d'un jeune drogué qui vit dans une famille aisée, avec des parents qui travaillent, des parents qui sont ensemble, il est tout seul, tout devrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, et bizarrement, cet enfant se drogue. Alors vous allez découvrir pourquoi cet enfant se drogue, vous allez voir comment la classe moyenne et sa féminisation ont engendré des drames incroyables. Même dans une société prospère, là où le père ne fait pas son travail, eh bien cela pose des problèmes. Vous allez vous découvrir à quel point le milieu familial de classe moyenne est devenu dégénéré, avec une volonté toujours d'être en dialogue avec ses enfants, croire que ça va résoudre tous les problèmes. Des parents qui savent en plus, qui ont conscience qu'ils sont beaucoup trop dans le dialogue, que l'absence de sanctions réelles a conduit leur enfant là où il en est. Leur enfant leur dit, a beau leur dire, ils ont pris ça au début à la légère, et puis quand son comportement a commencé à les emmerder, eh ben il n'y a qu'à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé un peu à réagir, parce qu'en fait ils vivent de manière super égoïste. Donc ils ont même été jusqu'à lui planter du cannabis parce qu'ils étaient complètement à côté de la plaque. Ils ont accepté que leur fils n'aille pas en cours. Ils lui font des cadeaux, ils essaient de l'acheter avec de l'argent, croyant que cet argent va remplacer une bonne éducation. D'ailleurs, même les médecins scolaires ont conseillé au gamin, lui ont dit qu'il n'y avait pas de problème avec le cannabis tant qu'il avait des bons résultats scolaires. En somme, travaille, fais du fric, et puis si t'es mal dans ta peau, si t'es complètement à la ramasse, si tu fais souffrir ton entourage, ça ne pose aucun problème à partir du moment où tu continues à travailler comme un animal. Donc l'éducation qu'ils n'ont pas donnée à leur enfant, maintenant ils essaient de la rattraper en l'envoyant chez le psy parce qu'il les a volés, parce que ça pose trop de problèmes au quotidien et parce que en fait ils sont eux-mêmes en tant que parents, c'est eux qui ont un gros problème, comme leur fils va leur dire, il va leur dire même ouvertement qu'il attend plus d'autorité, mais ceux-là sont incapables d'accepter les tensions. Ils veulent toujours être dans le dialogue parce que, en fait, ils ne veulent pas accepter la vie telle qu'elle est. Ils veulent continuer à vivre avec l'idée d'une vie douce et bien heureuse quand on est riche matériellement. Et ils ne se posent absolument plus aucune question sur le sens de leur vie. Ils n'ont qu'un mérite, c'est d'avoir osé exposer leur situation à la radio pour que d'autres familles prennent peut-être un jour conscience de la bêtise de la féminisation grandissante de la société, à quel point même quand on a tout, eh bien on peut devenir complètement en souffrance parce qu'on s'est coupé du sens de la vie. En résumé, ce n'est pas rendre service aux enfants que de les laisser en fusion avec leur maman. Et puis, les pères devraient peut-être se bouger un petit peu le cul, quoi, pour essayer de secouer un peu leur femme. Alors évidemment, quand ils sont petits, c'est marrant de les voir se comporter n'importe comment. Et puis, mais si vous voulez faire le bonheur de votre enfant, faut peut-être penser un tout petit peu plus loin, hein. Et puis, je dis au père, hein, quitte à se fâcher un petit peu, secouez votre bonne femme, hein. Elle en a besoin. Elle a besoin aussi de se remettre un peu en question, parce que après, elle essaie de faire l'autorité auprès du gamin, mais elle n'y arrive pas du tout parce qu'elle n'y comprend absolument rien. Elle joue sur les affects alors qu'il faudrait imposer des règles. Bon, il serait temps que les pères fassent leur travail, c'est-à-dire acceptent la séparation, même avec leurs femmes et leurs enfants, pour que le boulot soit fait. Voilà, tant pis pour ce sacrifice-là. On ne peut pas continuer à avoir des espèces de familles de dégénérés comme ça, parfaitement intégrées socialement, qui sont des malades mentaux, et puis qui forment des générations de malades mentaux en souffrance.
Bonjour Caroline Brouet et bonjour à tous. Aujourd'hui pour notre retour sur du vendredi, Hugo, ses parents et la psy, quelques joints plus tard, une émission diffusée pour la première fois le 30 janvier 2006, à écouter ou à réécouter, d'autant plus hélas d'actualité que la consommation du cannabis chez les jeunes est en forte augmentation aujourd'hui. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Il y a des gens qui sont catégoriques avec le shit ou avec l'herbe. Ça peut être un truc sympa de, je sais pas, enfin voilà, c'est, j'ai pas une image forcément diabolisée de ça, voilà. Et lui, en fait, il va dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand il nous dit oui, mais moi j'en achète pas, j'en fume peu, il nous rassure, alors qu'en fait c'est pas vrai, quoi. On a des profs que c'est pas vrai, qui fume beaucoup, qu'il en achète, qui fait. Donc le problème de la vérité. Et alors quand je parle de ça, de la vérité, il nous dit oui, mais je peux pas vous dire la vérité, puisque la vérité vous seriez effaré. Donc il nous raconte des mensonges. On n'a pas spécialement envie de mensonges, mais j'aimerais qu'ils prennent conscience qu'ils tombent dans un piège, c'est un engrenage et un piège de tomber là-dedans, quoi. Que forcément, ça bouffe la vie, quoi.
Je vois la puissance que ça a, parce que je vous dis, vous continuez à pas me croire, mais je vous jure que dans ma tête, ça a changé.
Ça fait 3 ans que à chaque fois il y a des choses et qui nous dit ça y est j'arrête, ça y est je fume plus, ça y est je m'en pue, ça y est, et que ça revient. Et là la dernière crise, la dernière chose, c'était cette histoire d'argent, c'était en décembre, c'était juste avant Noël.
C'est la première séance d'une thérapie familiale qui se déroule à la Corderaide à Paris dans le 12e arrondissement, lieu d'accueil comme on dit pour les toxicomanes et aussi les adolescents en difficulté, ce qui n'est pas forcément un pléonasme. C'est la première séance avec Hugo, 15 ans, ado des plus malins, ce qui n'est pas incompatible, et ses parents ouverts au dialogue, attentifs, tolérants, dans un esprit très 20e siècle, mettons 70, tendance 80, et pourtant, comme le montrait la semaine dernière une enquête lumineuse, voilà que dans les beaux quartiers en particulier, ou en tout cas dans les quartiers un peu bobos, disons, le cannabis fait des ravages et des records, et qu'on ne sait plus par quel bout le prendre, la répression, l'indifférence, le dialogue de sourds, attendre que ça passe ou refuser de le voir. C'est à cela que sert la Corderaide, à essayer de prendre la question par un bout, essayer de faire émerger un peu de vérité dans le tissu de mensonges et de contradictions dans la crise permanente et nécessaire qui caractérise la vie des ados exactement au même titre que celle de leurs parents en tant que parents d'adolescents. Aujourd'hui donc dans les pieds sur terre, crise des parents et accessoirement celle de leurs adolescents avec l'affaire du pétard.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Vous vous installez où vous voulez. Hein. Moi, je vais me mettre là. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de moi?
Ce qui nous embête un petit peu, c'est... Bah, par rapport à notre fille et notre fils, c'est vrai que le fait qu'ils fument plus que la normale, enfin, que j'appellerais la normale, pour moi, c'est dans l'exceptionnel, quoi. C'est-à-dire que de la même manière que les gens peuvent boire un peu d'une manière exceptionnelle parce que c'est un moment festif ou un truc comme ça. Enfin, moi, j'ai pas un regard sur le cannabis, par exemple, je parle que de ça, hein, que du cannabis. Mais moi, j'ai pas un regard noir. Pour moi, c'est pas le diable, c'est pas un truc. Mais je trouve que, voilà, c'est super si c'est un truc qui se passe comme ça, une fois de temps en temps, tout ça. Maintenant, eux, ils sont dans un problème quotidien, quoi.
Mais eux, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'est. Voilà. Quand on a su qu'ils fumaient un peu, ben, on s'est pas inquiété parce que. On l'a déjà fait nous aussi, on s'est dit que c'était pareil, que ça leur passerait, que c'était à l'occasion de fête et tout. Puis, donc on n'a peut-être pas été vigilants à un moment où il aurait fallu l'être. Et puis ça nous a dépassé très vite. Puis de fumer à des fêtes, c'est devenu très vite un truc qui a pris trop de place dans leur vie. Et du coup dans la nôtre, et du coup dans leur comportement. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était un problème qui nous dépassait. Et voilà, et qu'on avait besoin d'aide, quoi.
Vous fumez ensemble avec votre sœur ou pas?
Oui.
À la maison?
Non.
Non.
C'est-à-dire que notre fille, on l'a pas tellement vu venir le truc parce qu'elle est plutôt. Elle est super active, elle fait plein de choses. Donc, on n'a pas vraiment fait attention que notre fille fumait de plus en plus. On s'en est rendu compte, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Il y a presque... Maintenant, ça fait peut-être un an, quoi. Mm-hmm. Mais c'est... Ce qui m'inquiète, ce que je trouve fou, c'est que... Enfin, moi, j'ai arrêté de fumer du tabac depuis 2 ans. Et c'est quand même une prison, quoi. C'est vraiment une prison. Moi, j'ai vraiment eu du mal à m'en sortir de cette prison. Je sais que le cannabis, à la limite, c'est, je ne sais pas si c'est le tabac qui rend addict ou j'en sais rien. Mais pour moi, c'est un peu un échec que mes enfants se mettent à faire un truc tous les jours. Tous les jours comme ça, vraiment. Vraiment, je trouve que moi, ça me déprime.
Pour votre fils, vous l'avez appris quand alors
le... C'est lui qui nous a dit, puis on le voit parce qu'on trouve sans arrêt des feuilles à rouler, des machins, des filtres, des bouts de carton, et puis voilà quoi. Et puis il a les yeux rouges, il aime ça, il trouve ça sympa. Et il appartient dans un monde où dans ce monde-là, voilà, il y en a, c'est de la mobilette et ils boivent des bières. Et lui, c'est, il écoute de la musique et il fume des pétards. C'est son monde. Et il aime bien son monde. Et quelque part, je comprends ça en plus parce que c'est agréable la musique, tout ça. Mais c'est un problème, c'est un vrai problème parce que c'est pas anodin, quoi. C'est pas un truc parce qu'on a une crête avec des cheveux orange ou un truc comme ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas anodin. On peut se détruire des neurones, on peut devenir mou, ne plus avoir envie de plein de choses, de avoir tendance. Et c'est ça qui mine. Et c'est ça que c'est comme s'il buvait tous les jours, quoi, comme l'alcoolisme, des trucs comme ça, c'est grave, quoi. C'est un truc.
Et puis on s'est rendu compte que ça détruit. Quoi. C'est vrai que ça nous a fait flipper quand on a compris qu'il fumait, que ça lui arrivait de fumer seul.
C'est vrai qu'avant, c'était beaucoup. Je me levais le matin en me disant aujourd'hui, je vais faire comment pour fumer, si j'avais pas d'argent, si j'avais pas de shit. Je me sentais frustré, oppressé. Je me sentais pas bien, quoi. Et maintenant, je m'en fous. J'ai pris vachement de recul par rapport à ça, et ça, je sais pas, ils ont pas l'air de le comprendre, mais...
Est-ce qu'il y a des jours où vous fumez pas ?
Oui. À un moment, on se voyait. Bon, aujourd'hui, quelqu'un a 10 euros, quelqu'un a 20 euros, et puis là, on passait l'après-midi à chercher du shit.
Fréquemment ?
À un moment, ouais, c'était fréquemment. Ouais. À un moment, c'était habituel, c'est-à-dire que j'avais mon joint du matin, mon joint du midi, et mon joint du soir. Et si, entre ça, j'avais l'occasion de fumer, je fumais quand même. Mais ces trois-là, ils étaient fixes, ils bougeaient pas, et je les avais sûrs, forcément, tous les jours. Maintenant, c'est une habitude que j'ai complètement perdue, que j'ai complètement effacée, puisque je me suis rendu compte que c'était mal, et que des fois, j'étais chez moi, à la limite même, ça me faisait chier de fumer, et en fait, il fallait que je fume mon joint pour cette habitude, comme si c'était un rituel obligatoire, en fait. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que c'était plus possible et que ça prenait une ampleur sur mon existence assez incroyable, enfin, que j'étais prisonnier de ça en fait. Donc ça m'a fait flipper et je me considère pas dépendant au shit parce que voilà, j'en ai pas besoin. Enfin, avant si, maintenant non.
Enfin, c'est l'époque dont vous parlez où vous aviez ces rituels, ça remonte à quand ça ?
Ça remonte à pas si longtemps que ça, ça remonte à un peu après la rentrée.
La rentrée de cette année ?
Ouais.
Tu fumais tous les jours ?
Ah oui. Un peu avant la rentrée de cette année, avec les cours, en fait.
Alors que tu m'avais dit que les films
En fait, c'était au collège. J'allais plus en cours. Enfin, ça me saoulait.
L'année dernière.
Et puis ça me saoulait. J'avais ma bande de potes. Et puis voilà. On n'allait pas en cours. On fumait. Voilà, ce machin. Et là, à la rentrée, j'ai commencé à faire la même chose. Je me suis rendu compte qu'en seconde, c'est pas du tout la même chose qu'en troisième, qu'au collège. Que ça demande plus d'attention, plus de travail, que si on les défonçait en cours. Bah, à la limite, ça sert à rien d'y aller. À partir de là, j'ai arrêté de fumer le matin, parce qu'après, la matinée, voilà. J'ai arrêté de fumer dans la journée. Maintenant, je fume le soir, quand je sors des cours, voilà, après les cours, pour se détendre, en juin. Mais c'est vrai que ça m'arrive de pas fumer de la journée, dans des week-ends, Et par contre, à une soirée, il me semble que ça m'est pas arrivé depuis longtemps de passer une soirée sans fumer.
Ça a duré combien de temps, matin, midi, soir?
Ça a duré bien 5-6 mois. Ben voilà, avant j'avais pas de joint, je cherchais absolument à en avoir. Maintenant j'en ai pas, et bien tant pis.
Ouais, mais sauf que ça fait pas très longtemps et qu'on... Enfin, c'est-à-dire que le problème c'est que depuis qu'il est tout petit, il ment énormément et il ment très bien. Et nous, pendant des années, étant donné qu'on n'a pas l'habitude de ça, on l'a cru. Et il nous a tourné en bourrique, on pouvait gober tout ce qu'il nous disait. Et puis on s'est rendu compte qu'il nous mentait et que c'était de plus en plus embêtant. Au début ça nous faisait rire, après ça nous faisait moins rire. Et puis ça nous fait plus rire du tout. Et il continue à mentir, mais il fait pas que mentir. C'est-à-dire que il fait des choses plus graves que mentir. Et ça fait pas très longtemps que il a fait des choses énormes pour avoir des sous. Il dit que c'était pas pour acheter du gîte, mais nous on est à peu près sûr que si, que c'était une partie pour ça. Et ça fait pas si longtemps que ça. C'est là où on s'est dit.
Vous dites qu'il a fait des choses énormes. C'est quoi?
Vas-y, dis.
J'ai volé de l'argent à ma mère. Nous sommes assez sur son compte directement avec sa carte bleue. J'allais tirer de l'argent régulièrement toutes les semaines. Pendant un mois, ça a duré parce que ça pouvait pas durer plus longtemps.
Enfin, ça a duré pendant un mois, puis ça avait existé avant, mais les fois d'avant,
non,
enfin,
ça, m'a dit
vous avez, que c'était déjà arrivé, mais que je m'en étais pas rendu compte.
Comment vous avez eu son numéro?
Bon, je sais plus.
Si tu sais. C'était une fois où, pour lui faire plaisir, j'ai été lui acheter un super jogging, et ce jour-là, quand j'ai acheté le super jogging, il a vu le numéro que j'avais fait pour lui payer son super jogging.
Qu'il nous mente à nous, c'est une chose, mais qu'il se mente même à lui, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie qu'il se mente en se disant je fume moins, alors qu'en fait c'est pas vrai, il fume autant, je fais ça, mais je fais moins, je suis pas en danger, alors que c'est vrai, et qu'au fond de lui, il le sait pertinemment. Voilà, c'est ça, je suis très inquiet par rapport à ça. Parce que le mensonge, il est tellement habile, parce qu'il a une espèce de sincérité comme ça, très naturelle. Il peut se masquer à lui-même la vérité, quoi. Et par exemple, quand tu nous avais déjà dit que tu fumais moins, que tu faisais ça, puis en fait, quand tu nous dis que à la rentrée tu fumais encore, par exemple, pour moi, par exemple, c'était censé être une période où tu fumais plus, quoi.
Non, mais oui, tu vois, à la rentrée, je fumais plus beaucoup. Mais j'ai repris à fumer à la rentrée, puis là, je me suis calmé par rapport à cette histoire. Je prenais cet argent pas que pour acheter du shit. Sur
la carte bleue, ça date de la rentrée.
Oui. C'est ça qui m'a décidé. C'est sur la carte bleue qui m'a décidé à vous appeler.
C'est ça qui m'a fait changer dans la tête, parce que je me suis dit que en fait j'étais capable de. Enfin, j'ai pris conscience de cet acte qui est absolument horrible. Pour moi, c'était que de l'argent. Bon, ils en ont. Voilà, je leur prends. C'est du vol, quoi. Mais là, c'est pas que du vol. C'est aussi une trahison. Enfin, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard de ça, et ça, c'est un gros défaut chez moi, c'est que je calcule pas du tout les conséquences de mes actes. Mais vraiment pas.
France Culture, les pieds sur terre.
C'est que j'ai reçu mon relevé de banque et j'ai regardé quand même. Déjà, ça m'était arrivé le mois dernier et c'était un retrait. Mais là, c'était 3 retraits. Après, je me suis rendu compte que c'était le même jour. C'était des jeudis. Et après, je me suis rendu compte que c'était à la même heure. Puis j'ai réfléchi et puis en fait, c'était le jour où je prends des cours de clarinette. Au début j'y croyais pas, j'ai dit attends, c'est à mes heures de clarinette, donc c'est impossible, c'est toi. Il me dit non, c'est pas moi et tout ça. Et puis moi c'était tellement énorme qu'au début il me dit tu crois vraiment que c'est moi? J'ai dit oui, je crois que c'est toi, mais en restant vachement calme, je vois pas d'autre solution, c'est toi, c'est obligé. Puis voilà, puis je réfléchis, puis je me dis bon, je vais voir ma banque, je vais appeler à la banque, je vais voir s'il y a eu des autres retraits.
Donc vous avez eu la confirmation.
Enfin voilà, et j'ai eu la confirmation. Bah après, le lendemain, j'en ai parlé à Aldo le matin, et à midi, quand il est rentré de l'école, on lui a dit bon, bah Hugo, c'est même pas la peine qu'on te demande c'est toi, c'est pas toi, on sait que c'est toi parce qu'il n'y a aucune possibilité d'autre. Et quand on lui dit ça, tout de suite, il nous dit oui. Je suis désolée, il se met à pleurer, c'est vraiment dégueulasse ce que j'ai fait, tout ça, voilà. On lui a demandé ce qu'il en avait fait, il nous a dit la moitié ça m'a servi à acheter du shit, et puis la moitié j'ai fait plaisir aux copains, j'ai payé des pots, c'était génial.
C'est pas
Alors, qu'est-ce que t'as dit alors?
Non, j'ai dit que je m'étais fait plaisir avec, et c'est vrai. J'aurais pu acheter que du shit avec, j'ai pas fait ça. J'ai été au ciné, j'ai été manger, j'ai fait plein de trucs avec.
Ça faisait 340 euros quand même. Ça faisait 340 euros en un mois en 5-6 semaines.
Vous faites quoi
comme travail? Je suis kinésithérapeute. Et voilà, et donc Hugo, tu m'as même dit, je savais que je me ferais prendre.
Oui, je le savais. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai aucune conscience de mes actes. Je ne me rends pas compte de ce que je fais, en fait.
Mais finalement, vos parents ont discuté avec vous, mais vous n'avez pas été punis.
Si. J'ai travaillé pendant toutes les vacances. Puis maintenant encore, je dois les rembourser. Je travaille.
Il a sorti pendant toutes les vacances. Il a venu à Noël. Enfin, les cadeaux qu'il a eu, en fait, c'était de l'argent offert par de la famille. En fait,
il nous a remboursé avec.
C'est cadeau de Noël. Il a travaillé. Il doit continuer, il nous doit encore un peu d'argent, donc il va les rembourser. Bon, ce qui est dur aussi, c'est toujours cette histoire de... À chaque fois, on lui redonne notre confiance assez rapidement, finalement. On est miné parce qu'il nous ment, parce qu'il nous embrouille, parce que... voilà. Et puis, de nouveau, on est déçu à chaque fois, quoi. Donc, c'est au bout d'un moment, ça devient dur, quoi. Parce que là, on se sent vraiment trahi, on se sent vraiment... voler, escroquer par quelqu'un qu'on aime, quoi. Donc c'est très dur à vivre, quoi. Et c'est vrai que moi je m'aime beaucoup, bon, ça il a du mal à le comprendre, mais je m'aime beaucoup ça sur le dos du fait de fumer tous les jours, tout ça, je mets beaucoup ça sur le dos de ça, quoi. Moi à la limite je suis pas assez autoritaire là-dedans. On passe trop par des phases de discussion plutôt que par des phases de punition ou d'interdiction, ou voire voilà, moi je sais pas mon processus de fonctionnement, c'est peut-être un tort. En même temps, j'en ai discuté aussi avec lui, lui il préfère un rapport de discussion qu'un rapport autoritaire mais en même temps je me retrouve quand même devant un échec, quoi, d'une situation.
Des entretiens, et ce que vous en avez tiré?
Moi je trouve qu'il dramatise beaucoup, parce que par rapport à l'école, déjà moi je trouve que ça va très bien à l'école, j'ai des bonnes notes, je m'en sors plutôt bien.
Mon père au téléphone, il m'a dit scolairement
ça. Bien sûr, mais moi tu sais qu'on le pense aussi, hein,
et je pense que c'est... L'année dernière j'ai passé beaucoup de temps avec mes médecins scolaires pour ça, pour la fumette, et ils m'ont dit que ça commencerait à être grave quand ta scolarité sera en chute.
Moi j'ai tendance à penser comme votre père et votre mère. Je pense que ça commence à être grave quand on fume tous les jours, qu'on fume seul, enfin tout ce que vous avez décrit, c'est les signes de la dépendance. Alors si vous pouvez prendre du recul par rapport à ça, effectivement, et réserver, comme le dit votre père, au joint festif, ça serait bien. Vous parliez du fait que vous vous sentiez manqué un petit peu, enfin vous vous interrogiez sur la fermeté, l'autorité. Qu'est-ce que vous pensez que votre fils peut attendre de vous là-dessus?
C'est vrai qu'au début, si on veut être honnête, ado, on a fait plein de bêtises, je suis désolée. On en a même planté dans notre jardin. Et il le savait, les deux mots. Alors il se marrait.
Une colonie avec de l'herbe à vous.
Voilà. Alors, donc on a fait, au début,
vous
on a fait.
Vous avez joie aussi?
Non. Ah non, jamais.
Jamais. Non, mais en plus de ça, mais on fume même pas.
On fume même pas.
On fume même pas. On en a planté pour eux, mais pas.
On sait pas.
Pour faire rigolo, j'en sais rien pourquoi. Je sais même pas pourquoi, parce qu'on avait des graines qu'on nous a données.
On avait des graines.
On les a plantées, voilà. Mais débile, je m'en veux.
J'étais petit, moi je savais pas ce que c'était encore. Et c'est ma sœur qui me l'avait dit, en fait, je m'en rappelais
voilà,
pas.
Voilà, c'est n'importe quoi. Donc au début, on a fait vraiment des bêtises.
Vos objectifs, Hugo, est-ce que vous pouvez arriver à les définir le plus clairement possible et préciser un peu en quoi vos parents peuvent vous aider, à leur niveau, à les atteindre?
Mais je pense pas que mes parents peuvent m'aider à l'atteindre, en fait.
C'est votre affaire uniquement.
Je pense que si j'ai envie de fumer, ils pourront rien contre ça, en fait. C'est dans ma tête que ça doit se faire. Ils peuvent rien contre ça, en fait. Et que si dans ma tête j'ai pas envie d'arrêter de fumer, eh ben je trouverai toujours un moyen de fumer.
C'est pour ça moi que j'ai eu envie de venir, parce que je me suis dit, moi j'ai tout essayé, j'ai pas trouvé les arguments qui vont lui donner envie d'arrêter.
Votre fils vous dit, ça ne dépend pas d'eux, ça dépend exclusivement de moi. Vous, en tant que parent, vous pouvez penser différemment et vous pouvez penser que vous avez un rôle à jouer et qui peut être justement dans la mise en place ou le renforcement ou la clarification des règles,
des limites,
de ce que vous, exactement, de ce que vous acceptez, de ce que vous n'acceptez pas, quitte à ce que ça provoque effectivement des tensions et des discussions, mais aussi des tensions. Parce que si vous voulez, je pense que à l'âge d'Hugo, il faut quand même que. Les premiers avec lesquels on peut s'affronter de manière justement constructive, c'est bien les parents.
Mais moi, je m'affronte en plus, par exemple, que Aldo, qui a du mal avec les conflits.
Non, mais trop. Elle s'affronte trop.
Je m'affronte trop parce que je suis un peu trop toute seule à m'affronter. Donc je m'affronte trop, je m'affronte maladroitement parce que je suis un peu perdue et débordée. Mais par rapport au conflit, Aldo dit lui-même qu'il a du mal avec les conflits, avec quiconque, avec moi, avec les enfants, il a du mal. On est complémentaires.
Moi aussi en fait, et dans mon éducation, je pense que si justement je me serais pris un peu plus de claques, eh ben déjà j'aurais volé de l'argent, ça me serait pas venu à l'esprit. Quand j'ai volé l'argent et qu'ils se sont rendus compte, j'étais même sûr que mon père, il allait se lever et mettre une claque ou me frapper. J'en étais sûr et à la limite, ça m'a déçu qu'il le fasse pas en fait. Quelque part, je vous jure que c'est vrai.
Oui, la façon dont vous avez été privé de ci, de ça, obligé de travailler, dont vous payez, vous êtes sanctionné.
Oui. Par exemple, la dernière fois que j'ai eu mon père au téléphone, il m'a mis la pression, et c'est vrai que ce fait que, enfin, quand tu m'as mis la pression, quand tu m'as dit, si tu ressèches, je te jure que je te massacre, et ça, enfin.
Ça t'a marqué?
Il faut que j'ai peur de toi. Il faut que j'ai peur de toi quelque part.
Je sais bien.
Tu m'as mis la pression sur le fait, parce que j'ai séché, ils veulent plus que je sèche, et j'ai séché un cours encore.
Oui,
mais ça aussi, j'ai beaucoup diminué, je sèche plus, et je sécherai plus.
Il a toujours des super et c'était la semaine dernière, c'est-à-dire que
tout, et donc il va tout bien faire.
Bah, j'aimerais bien, mais non,
ça serait pas drôle du tout si vous étiez un adolescent parfait et vous resteriez à la maison.
Non, mais là, ce que je me rends compte, c'est que le fait mes conneries, ça atteint leur vie à eux, enfin leur mental, qui sont malheureux à cause de moi, et ça me rend malheureux, quoi. Et j'ai pas envie de ça. Et ça, avant, j'en avais pas conscience. Et justement, je pense que c'est un grand pas.
C'est ça la bagarre entre le fils et le père.
Ouais, de toute façon,
vous faites pas ce qu'il faut.
On a fait pas bien.
Voilà.